Bonjour.
Bonjour.
Je me présente, je m'appelle Holly Sabi, donc nom hérité de mon maître tatoueur Holly Uchi, que j'ai eu l'immense privilège de rencontrer à Sapporo et avec qui j'ai étudié durant 2 mois et demi au Japon, du coup. Et il y a Makoto et Kazuya également qui m'ont enseigné tout ce qui est les codes graphiques et la symbolique du tatouage japonais, qui est un art vraiment très profond, on va dire, qui a beaucoup, beaucoup d'influence du côté de l'estampe japonaise, notamment. Donc ensemble, nous allons voir un petit peu l'histoire du tatouage japonais, les symboliques et les codes graphiques, globalement, une petite introduction. Donc je pense que c'est nécessaire, surtout si on souhaite en faire, en fait. Et ensuite, on va discuter des tatoueurs et des tatoués aujourd'hui, et notamment de la situation des tatoueurs au Japon, qui est un peu en porte-à-faux, très particulière, et je pense que c'est nécessaire aussi d'en toucher un petit mot. Donc là, j'aimerais mettre déjà un petit point particulier. Alors souvent, les gens attribuent le tatouage japonais au Yakuza. Et c'est quelque part une erreur, parce qu'au départ, donc, c'était vraiment un art qui touchait avant tout les classes populaires, avant de toucher la pègre japonaise. En fait, ça arrivait beaucoup plus tard. Donc afin de bien comprendre rapidement ce qu'est le tatouage traditionnel japonais, je vais reprendre les propos de Jake Aldenstein, tirés de sa biographie « Le dernier des Yakuza », un livre qui est sorti très récemment, en début d'année. Alors, l'histoire du tatouage au Japon remonte à loin. Au cours des siècles, il a revêtu différentes fonctions, que ce soit décoratives ou punitives. Il a aussi pu faire partie de rituels ou bien symboliser l'appartenance à un groupe social très uni. Les tatouages n'ont jamais été et ne seront jamais le territoire exclusif des Yakuza, bien que pour de nombreux Japonais et Occidentaux, les tatouages traditionnels et les Yakuza sont inextricablement liés. Donc, au Japon, il y a toujours eu des hinin, des non-personnes, et avec l'introduction du bouddhisme, des burakumin, les gens du village qui étaient séparés des autres castes, et qui vivaient en communauté fermée et isolée, qui effectuaient des travaux indiqués comme des péchés par le bouddhisme, par exemple des travaux désagréables comme geôlier, bourreau, fossoyeur, abattre les animaux, travailler le cuir, tous les travaux qui ont rapport avec le sang et le meurtre, en fait, en gros. Et c'est eux les premiers qui vont commencer à se tatouer, en fait, qui vont être marqués pour vraiment être différenciés des autres gens qui faisaient partie de la courtoisie, les artisans nobles, comme les travailleurs du bois, etc. Ils étaient soit tatoués sur les avant-bras, etc. Vraiment pour qu'on remarque que c'était des gens qui commettaient des péchés. Et ensuite, sur l'île la plus au nord du Japon, à Hokkaido, par contre, c'était tout le contraire. Le peuple des Ainu, en fait, avait pour tradition, notamment les femmes, de se tatouer le bord de la bouche, au coin des yeux ou sur les mains, pour indiquer qu'elles étaient mariées, ou pour marquer un statut hiérarchique particulier, qu'elles étaient importantes dans la communauté. Et maintenant, c'est une tradition qui est en train de disparaître, puisque ce sont des peuples qui ont été très très réprimés lorsqu'il y a eu les premières invasions japonaises sur l'île de Hokkaido, ce qui est bien dommage quelque part. Ensuite, en 1720, il y a les châtiments de la chair, comme on avait chez nous au Moyen-Âge, qui ont été remplacés par les marques sur les criminels pour indiquer la nature du crime et la région d'origine. Donc, comme on peut voir ici, c'était des marques très très particulières, hein. Notamment celle qu'on voit en haut, qui était très connue, où il y avait le caractère du chien qui était tatoué directement sur le front, pour vraiment indiquer que la personne avait fait un crime très très grave, hein. Et c'est quelque chose qui a été aboli assez vite en 1870. Mais pour éviter justement d'être par la suite reconnus dans la rue, notamment quand ils étaient tatoués sur les bras, ces criminels ont commencé à faire des tatouages plus élaborés, très décoratifs, et c'est peut-être ce qui a influencé les premiers Yakuza qui étaient eux aussi marqués pour leurs crimes. Ils ont opté pour des tatouages vraiment qui camouflaient ces marques-là. Et du coup, suite à ça, après avoir s'être un peu émancipé du côté criminel, c'est les castes les plus modestes, en commençant par les prostituées, les pompiers, ce qu'on appelait les combattants du feu pur et dur à l'époque, qui pour arrêter les incendies abattaient carrément des maisons. Et du coup, pour se protéger de la chaleur des incendies, des accidents du travail, ils avaient pour coutume de se faire des tatouages protecteurs, comme Fudomyo, le dieu du feu, qui les protégeait, soi-disant. Ça ne marchait pas toujours. Et ensuite, voilà, c'est vraiment démocratisé avec le roman chinois Suikoden, qui est arrivé au Japon un peu tard, parce que c'est très très important comme roman, on va dire. C'est deux volumes de 1000 pages chacun, on peut les trouver en traduction française. Et c'est surtout grâce à ça qu'on a commencé à faire des tatouages qui prenaient tout le corps, de la base du cou jusqu'au pied. C'est très particulier. Et ça nous amène donc à la prochaine partie sur la symbolique. On va voir tout ça en œuvre. À travers des petits exemples. Donc c'est au 19e siècle que ça a commencé, avec les grands maîtres de l'estampe, tels que Yoshitoshi et Utagawa Kuniyoshi, qui ont commencé à illustrer le roman du Suikoden et les légendes et les mythologies japonaises qui tournaient autour, avec beaucoup de couleurs, d'expressions, et tous les éléments qui vont avec. Donc ensuite, les tatoueurs ont repris cette forme des estampes pour les appliquer directement sur le corps en taille plus ou moins importante. En général, on commençait par faire un dos complet quand c'était des personnages. Et les animaux et les créatures mythologiques, du coup, restent cantonnés dans leur saison et leur histoire. Donc ils ne peuvent pas être mélangés avec n'importe quelle fleur, quelle plante, parce qu'il y a vraiment les saisons qui doivent être respectées. Et il y a aussi le corps qui a un sens et une harmonie qui doit être vraiment bien comprise pour tout attribuer correctement. Notamment le haut du corps qui est du coup attribué plutôt au ciel et au divin. Donc il est interdit en fait dans la tradition de représenter des dieux en dessous de la ceinture, parce que c'est perçu comme étant un peu blasphématoire. Ça se fait de nos jours, mais à l'époque c'était vraiment très strict. Donc tout ce qui est déesse, bouddha, etc., c'était vraiment sur le haut du corps, les bras on pouvait aussi, mais on s'arrêtait là, pas le droit d'aller plus bas. Et le bas du corps et les jambes étaient par contre réservés à tout ce qui est la représentation plus terrestre, l'eau profonde comme les mers par exemple, les océans, et les enfers. Donc il y en a beaucoup qui reprennent la thématique de représenter le Bouddha sur le haut du corps par exemple, et plus on va descendre, plus on va aller vers la terre et représenter du coup les neuf cercles de l'enfer japonais qui sont à peu près les mêmes que les nôtres, avec du coup des dieux qui sont pas très très sympathiques. Ensuite, les animaux qu'on connaît de la vie de tous les jours, par exemple comme le tigre, qui contrairement à ce qu'on pourrait penser est attribué à l'eau et non au feu, et il est souvent représenté proche des rivières puisque c'est un animal qui aime l'eau en fait, et entouré de bambous, des rochers tourmentés par les torrents, etc. Parce que c'est un animal qui va symboliser avant tout la combativité, le courage, donc il faut vraiment qu'il soit solide sur ses appuis, campé sur les rochers avec beaucoup de puissance. Donc il ne va pas forcément avoir l'air très gentil. Et ensuite, le dragon aussi. Le dragon qui est à la fois l'air et l'eau, parce que c'est là-bas dans la mythologie un déclencheur des tempêtes. Donc il est souvent représenté avec des nuages très sombres qui peuvent cracher des éclairs, etc. Et souvent attribué avec des fleurs de cerisier. Et c'est pas un hasard, parce qu'il y a la légende de base, donc, vraiment qui remonte à la Chine ancienne, qui raconte que les carpes, en remontant le courant, vont se transformer en dragon en passant une porte. Et elle remonte ce courant pendant l'automne. Donc elle se transforme en dragon quand elle passe la porte du dragon tout en haut de la cascade. Et c'est pour ça qu'on représente le dragon en général avec des fleurs de cerisier et rarement avec des feuilles d'érable, par exemple, qui sont attribuées, eux, à l'automne. Donc là, j'ai mis quelques exemples. On a une estampe de Kuniyoshi représentant Jiraya, qui est ensuite retransposé sur un corps, sur une vieille estampe, et ensuite un travaux moderne qui reprend la même estampe sur le devant d'un corps. Jiraya qui fait partie d'un trio légendaire de guerriers. On avait sa sœur Tsunade qui pouvait invoquer une limace géante, c'est pas très glamour, mais... Et ensuite son frère Orochimaru qui lui était lié au serpent, donc ces noms évoquent peut-être certaines choses, pour ceux qui connaissent le manga Naruto par exemple, et en fait le mangaka a repris exactement cette légende et c'est pour ça que ces personnages dans Naruto invoquent un crapaud, un escargot, une limace géante et des serpents. C'est vraiment, il a vraiment repris des légendes là. Là, pareil, un personnage très classique, Kintaro, qui est un enfant qui est sorti géant, en fait, du corps de sa mère. Il est né tout rouge, avec une très grande force, et il est souvent représenté attrapant une carpe qui déclenchait des cataclysmes dans son village, parce qu'elle était vraiment trop trop grosse. Là, très connu aussi avec donc à nouveau Kuniyoshi et à côté un travail de maître Horiyoshi avec qui j'ai étudié. C'est Suimon, un des héros du Shukoden. Donc, pareil, il y a beaucoup de représentations. Ensuite, quand le tatoueur va adapter l'estampe, il est libre de modifier un petit peu les éléments de l'arrière-plan. L'important étant qu'il faut garder la posture générale du personnage pour garder cette harmonie de base qu'il y a dedans. Et ensuite, il a aussi retravaillé les tatouages sur le corps du personnage. Ça, c'est une marque. Chaque tatoueur réinterprète les tatouages du Shukoden comme il entend. Et c'est ce qui permet de différencier le travail d'un tatoueur ou d'un autre, même s'ils font le même personnage. Alors ça, c'est Mando. Voilà. Là, c'est Ushiwakamaru, encore un autre personnage de la mythologie japonaise, quand il était jeune, qui est ensuite devenu, en grandissant, Yamamoto no Yoshitsune, qui est un des empereurs du Japon, tout début, et qui aurait appris à combattre avec les Tengu. Ce qui lui a permis de récupérer son honneur et son trône plus tard. Là, c'est Oni Wakamaru, un autre personnage, où pareil, le tatoueur a réinterprété les motifs sur le kimono. Il a directement écrit le caractère Oni sur le kimono pour vraiment rappeler le nom du personnage. Donc là, on a vraiment une bonne reprise. Donc à nouveau, une estampe de Kuniyoshi et à côté, un travail de Horimasa qui, lui, fait tout le traçage à la machine. Par contre, pour le remplissage, il utilise encore la technique traditionnelle du tebori où on utilise une longue baguette d'acier ou de bois au bout de laquelle on va fixer des aiguilles de métal, en fait, qui sont stériles. Donc maintenant, l'époque du vieux bambou, c'est fini, pour ceux qui y pensent encore. Là, on a deux interprétations de dragons, qui sont un des motifs les plus populaires en Occident. Donc, on a un travail de Makoto à gauche, qui est très très coloré et qui emploie des couleurs nouvelles. Par exemple, le violet et le bleu qui n'étaient pas utilisés à l'époque. Tandis qu'à droite, chez Yosin, ils conservent les couleurs qui étaient utilisées à la même époque qu'Edo. Donc au tout début du tatouage, vraiment c'était le 19e siècle, 18e, début 19e. Il y avait vraiment une palette de couleurs très très limitée. Et certains tatoueurs qui veulent conserver cet aspect très traditionnel du tatouage vont rester cantonnés là-dessus. C'est juste un rouge, on a un genre de bleu, vert, turquoise, un ocre qui va être travaillé plus ou moins foncé, un jaune très très fort, et un marron aussi. C'est vraiment, la palette est très très réduite. Hein. Du coup, on a quelque chose qui est assez pur, on va dire, hein, et qui se rapproche beaucoup de ce qu'on avait dans l'ancien temps, c'est assez fou. Ici, deux autres exemples de corps. Donc, le tigre, pareil, très populaire. Et une représentation de Canon aux mille mains de Holimasa. Donc, c'est un travail très impressionnant en noir et gris. C'est une pièce qui réclame beaucoup de place, rarement faite ailleurs que sur un dos. Et là, on a des exemples de travaux qui sont un petit peu plus petits, on va dire. Un kirin, en grand, à gauche, sur un bras. C'est une, alors, il a l'air méchant comme ça, mais c'est une créature divine, en réalité, qui apparaîtrait uniquement en période de paix, ou lorsque un empereur digne de ce nom monte sur le trône, quelqu'un de très honnête, donc ça fait un bail qu'on n'en a pas vu. Et à côté, vraiment des petits travaux, donc même si on parle de tatouage traditionnel japonais, c'est pas forcément des grosses pièces, on peut aussi faire des plus petites sur les mains, les pieds, etc. Donc sur la main, c'est un kappa, qui est une créature assez populaire là-bas, qui aime les concombres et pincer les trous du cul. Et en dessous, deux masques de Oni, des ombres japonais. Et il y a juste le haut de la tête. Alors là, c'est particulier. Les tatoueurs et les tatoués aujourd'hui au Japon. Donc c'est un petit peu alarmant ce qui se passe là-bas. Alors déjà, on peut dire qu'il y a encore des grands maîtres tatoueurs là-bas, par exemple Horiyoshi III, qui est très connu car c'est l'inventeur de la baguette Tebori qu'on peut voir sur cette image, celle en métal qu'on peut stériliser parce qu'à l'époque elles étaient sculptées dans du bois ou très travaillées avec des morceaux d'ivoire, etc. Et il n'était pas possible de les stériliser du tout. Et on pouvait juste changer l'embout qui se fixait au bout du manche. Donc là, on a Horiyoshi sur la gauche et Horikyo en plein travail sur un Yakuza en train de finir un intégral, donc c'est assez impressionnant. Donc là maintenant, de nos jours, il reste vraiment très peu de tatoueurs qui font encore du tebori. La plupart continuent à en faire pour le folklore, hein. Mais ceux qui savent vraiment en faire, on va dire, qui ont encore les techniques, sont vraiment de plus en plus rares. Et Horikyo, c'est un des derniers. Il appartient à une très très vieille famille de tatoueurs. Il y a encore ses disciples un peu partout dans le Japon, comme Horiten et Horitada, qui sont un peu éparpillés à Nara, à Kyoto, etc. Il y a moyen de les rencontrer. Et ensuite, il y a encore des tatoueurs comme Horitoshi qui pratiquent ça et Horimasa, comme j'ai montré, qui était sur la première image. Mais bon, pour des questions de prix et de rapidité surtout, parce que les gens sont de plus en plus pressés, en fait, ils veulent les pièces vite, qui se finissent vite. Il y en a de plus en plus qui passent à la machine entièrement, ou sinon qui vont faire que le traçage à la machine. Et ensuite passer juste le remplissage au tebori. Là, on a un exemple de Horimasa au travail, que j'ai eu l'honneur de rencontrer aussi quand j'étais là-bas. Il dessine directement à la main, quand c'est des petites pièces hein, sur les personnes, avec un stylo exprès pour écrire sur la peau. Et ensuite, ils réalisent tout le traçage avec une machine à bobine avant de passer au remplissage au tébori. Alors, on pourrait croire après que le tébori, c'est plus douloureux que la machine, mais on pourrait dire que c'est à peu près pareil, ou peut-être même que c'est moins douloureux, parce que contrairement à une machine, le tébori est une technique à la main, donc on tape à un rythme qui est humain, alors qu'une machine va taper très très fort sur la peau et plus la traumatiser. Par contre, en contrepartie, les aiguilles de tébori rentrent un petit peu plus profond, donc ça dépend. Et après, les tatouages exécutés à la main tiennent plus longtemps aussi, sur le temps en fait. C'est les couleurs qui tiennent mieux, etc., parce que c'est un petit peu plus profond. Après, c'est une technique voilà, qui est un petit peu plus invasive. Malgré tout, les gens qui se font tatouer comme ça rencontrent des petits problèmes, comme on voit dans cette image. Beaucoup de difficultés, qu'on soit tatoueur ou tatoué au Japon. On se voit refuser les entrées des onsen, par exemple, c'est le grand classique. On ne peut pas s'inscrire à toutes les salles de sport parce que les gens vont vérifier si vous êtes tatoué et vous ne pourrez pas de carte de membre en fait. Ensuite, il y a des problèmes aussi qui sont en fait liés au Yakuza parce que si le tatouage est discriminé, c'est à cause de ça, pour essayer d'empêcher en fait la pègre de s'intégrer dans le circuit normal. Ils ont fait en sorte de priver tous les gens tatoués sans distinction, comme ça on est sûr. Donc il y a des difficultés de la vie courante, comme par exemple ouvrir un compte bancaire, c'est quand même la base. Des problèmes pour acheter ou louer une voiture, la même pour les maisons aussi, pour les appartements, des difficultés de location en fait. Il y a beaucoup de propriétaires d'appartements qui vont être réticents à louer un appartement à quelqu'un qui est tatoué, pas forcément parce qu'il va l'attribuer à un yakuza, mais parce que peut-être que cette personne est un tatoueur qui va avoir des yakuza chez lui, voilà. Donc il ne veut pas de problème et il va refuser aussi. Et il y a aussi les soucis de quand les gens vous croisent dans la rue, ils changent de trottoir, ce genre de choses. Et dans les restaurants aussi, enfin moi qui suis beaucoup tatouée et qui a du coup fréquenté des tatoueurs aussi, j'ai connu ça, la discrimination dans les restaurants, la base, c'est les restaurateurs, ils voient que vous êtes tatoué, que vous êtes plusieurs, et en fait ils vont vous isoler dans une pièce loin des autres, donc à l'écart, hein, vraiment au fond du resto ou quoi, ou dans une pièce un petit peu fermée, cloisonnée, voire carrément avec des portes et tout. Tout ça pour pas que les clients normaux nous voient, quoi. C'est assez c'est malaisant. Et dans le métro aussi, ça m'est arrivé, moi personnellement, de m'asseoir et que la personne se rende compte que je suis tatouée, se relève et elle va s'asseoir plus loin aussi. Donc il y a vraiment un problème de ce côté-là de discrimination. Et il y a quelqu'un qui a eu vraiment des gros soucis avec ça. Donc, là, on y vient. C'est le logo de l'association Safe Tattooing qui essaye de sauver le tatouage au Japon. Il se trouve qu'en 2015, Taiki Masuda, un jeune tatoueur de Osaka, a vu une horde de policiers débarquer chez lui pour le mettre en prison, perquisitionner son matériel et payer une lourde amende. Et c'est le maire, l'ancien maire de la ville en fait, qui avait profité d'une loi un petit peu bancale de 2001 qui disait que seuls les professionnels de santé avaient le droit d'exercer le tatouage parce qu'ils ont attribué ce métier comme étant de la médecine parce qu'on met une aiguille dans le corps en fait, c'est tout. Donc maintenant pour être tatoueur au Japon, il faudrait avoir un doctorat, avoir fait 7 ans de médecine, quoi, c'est absurde. Donc Taiki a refusé de faire amende honorable, on va dire, et il a créé cette association, et il est en procès actuellement, c'est pas encore fini, il y a eu déjà plusieurs appels Et là, c'est remonté jusqu'à la cour d'appel de Tokyo, donc ça a pris des ampleurs assez monstrueuses. Et du coup, le dernier procès a lieu en ce moment, et l'issue va définir tout ce qui est l'avenir des tatoueurs, parce que du coup, s'il est perdu, les tatoueurs vont devoir devenir complètement clandestins, parce que pour l'instant, ils sont tolérés, ils sont en zone grise. Et si le procès est gagné, par contre, ils vont enfin pouvoir être encadrés juridiquement. Donc on va dire que c'est assez chaud. Alors voici Taiki, le monsieur de la Discorde, qui a décidé de se battre avec courage contre tout un gouvernement qui n'a pas bougé depuis le 19e siècle. Donc bonne chance à lui, hein. Heureusement, de son côté, il a quand même des avocats et tout ça qui espèrent arriver au bout. Pour le moment, les tatoueurs sont dans une situation telle que les gens normaux ne refusent d'aller se faire tatouer ou sont très très peu nombreux. Ils sont donc malgré tout obligés de travailler avec la pègre locale, sinon ils peuvent juste pas finir le mois. Ou avec des gens d'un milieu un petit peu plus underground, des musiciens, des artistes. Donc ça reste quand même un milieu assez fermé là-bas encore. Hein. Et il y a déjà pas mal de tatoueurs qui, pour fuir cette oppression au Japon, ont décidé de s'expatrier, même s'ils parlaient ni anglais, ni français, etc. Il y en a beaucoup qui sont partis aux États-Unis, en Australie, aux pays à proximité. Et ceux qui sont restés au Japon, la plupart ont soit des petits studios un petit peu planqués, soit ils sont carrément dans des appartements sans enseigne et on peut juste y aller du bouche à oreille, comme ça. Et on ne sait pas où ils sont, tant qu'ils n'ont pas donné de rendez-vous, etc. On ne sait pas où ils sont, quoi. Ils sont vraiment cachés, cachés. Donc c'est pour ça. C'est vraiment pas mal. Et ensuite, là c'est pour finir une petite annonce. Donc le tatoueur qui s'est occupé de mon dos, Makoto, qui va venir en France, donc de fin janvier jusqu'à mi-mars. Et si vous voulez un tatouage japonais, il y aura l'occasion d'en faire. On va tourner un petit peu partout. Il va rester à Mazamet, on va faire un guest work à Castres aussi. Il y en a un qui est prévu également à Lyon et peut-être une touche sur Toulouse ou deux même. Donc j'essaye de voir en ce moment, on fait le planning exact. Mais voilà, si vous voulez vraiment rencontrer un tatoueur de là-bas et rapporter une pièce, il y aura l'occasion de faire ça. Du coup, maintenant, si vous avez des questions, c'est bon. Oui.
Quand un Européen tatoue, pas au Japon. Bon, ils ne peuvent pas entrer dans les monastères, etc. Les Japonais ne font pas la différence entre les Européens, les tatoués et les Japonais. Puisqu'ils assimilent ça souvent à Toro et Yakuza, ils ne font pas la différence entre un Européen, un Japonais tatoué est considéré comme un Japonais tatoué.
Alors, il n'y a aucune différence. Aucune. Alors, moi, j'ai pu aller à un onsen, à Chosankei, qui est une toute petite ville, pas loin de Sapporo. En fait, il y avait Baba Yaga qui gardait l'entrée. Donc, pendant la journée, c'était impossible parce qu'il y avait des gens normaux donc, qui allaient dans les onsen. Par contre, j'ai pu y aller très tard la nuit. Et très tôt le matin, quand il n'y avait personne qui gardait l'entrée, en fait, mais vraiment en catimini comme ça, hein, parce qu'après elle m'a vu ressortir, elle n'était pas contente. Donc ils font aucune distinction, et que le tatouage soit grand ou petit, comme on est tout nu, ben, ça change rien. Hein. On peut avoir même un tatouage de style occidental, une plume, un petit infini, ça change rien, t'es tatoué, tu rentres pas. Donc, ouais, pansement. Moi, je peux pas mettre de pansement. Même les maquillés aussi. Moi, j'avais un petit
tatouage sur l'épaule et j'avais mis. Oui, ça va, mais quand c'est bon, voilà. Oui, est-ce que les tatouages sur les doigts ont une signification particulière?
Les miens?
Les vôtres ou en général?
Ça dépend. Ça dépend. Les tatouages sur les doigts, c'est vraiment un choix qu'il faut faire parce que c'est très très voyant. Donc, faut vraiment être sûr qu'on ne va pas changer de métier en fait. Ou sinon qu'on a une vie qui est en accord avec ça, comme artiste, musicienne, ce genre de choses. Parce qu'il y a beaucoup de milieux, même en France encore, qui refusent ce genre de tatouage. Par exemple, quand on est banquier, agent immobilier, etc. C'est déjà...
Y a-t-il une signification particulière? Voilà, ma question c'est ça. Le fait de se faire tatouer sur les doigts, sur la phalange.
Non, ça fait mal, c'est tout.
C'est un choix.
Je vais avoir mes sujets.
Par rapport justement à l'influence expressive des dessins eux-mêmes, il ne pourrait pas y avoir une justification de ces temps d'études pour que les tatoueurs, en règle générale, ne tatouent pas des smileys ou des choses. Vous voyez, c'est justement de l'étude artistique, historique, qui entreprendrait une véritable signification et une connaissance avant tout de ces moyens propres.
Ouais, non, là, en fait, le problème, c'est que le doctorat, avant tout, bon, c'est l'étude de la médecine pure et dure. Mais du coup, on va dire que pour tatouer, c'est mieux de faire des études de dessin quand même, avant tout. Et après, d'être formé justement comme ils font là-bas par un maître qui va enseigner les techniques justement pour ne pas blesser la personne, l'accompagnement et les conseils aux clients.
Par exemple, du rapport médical de l'aiguille qui rentre, il y a quand même une signification historique vis-à-vis de l'expressivité des symboles. Il faut quand même manipuler, comme vous disiez, une certaine harmonie qui va être indispensable, sinon le dessin en lui-même va dénoter quand même une certaine... Ouais, quelque chose de pas bon. C'est par là que justement l'influence psychologique, surtout sur l'esprit, quand la personne le voit, elle a quand même besoin de quelqu'un qui sache cette influence.
Ça justement, c'est un savoir qui va être juste acquis via un maître. Tatoueur, parce que c'est quelque chose qui se transmet vraiment à travers la langue. Donc déjà, il faut parler un peu le japonais et tout ça, si on veut espérer avoir vraiment des acquis. Et vraiment toute une harmonie derrière, justement. Et ça ne prise que via un maître, quoi. On ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas d'école pour ça, c'est tout que de l'étude. En regardant des vieilles estampes, des travaux de d'autres tatoueurs, etc. Donc, moi, j'ai eu la chance d'étudier 2 mois et demi avec un maître, et c'est pour ça que j'ai appris avant tout ce qu'ils appellent Irezumi no Seishin, qui est très très particulier. Et ça, tu ne peux pas l'apprendre en France, c'est pas possible. En Occident, justement, il y a beaucoup de tatoueurs occidentaux de chez nous, ou même aux États-Unis, etc., qui essayent de faire du tatouage japonais, mais comme ils ne connaissent pas les codes, justement, ils se trompent souvent. Et on voit des choses qui piquent les yeux, genre des vagues bleues, déjà. Ne faites jamais ça. Ouais, pas de vagues bleues. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Le tatouage que vous avez dans le dos, il y a eu combien d'heures de travail dessus ?
Une trentaine d'heures à peu près. À un moment, on a arrêté de compter. comme j'étais 2 mois et demi là-bas, je passais sur la table tous les 2-3 jours et je faisais des séances entre 3 et 5 heures. Donc c'était une épreuve. Donc c'est des tatouages comme ça qui sont à la fois une épreuve psychologique et physique pour le corps. C'est vraiment, on rejoint un petit peu la tradition maorée de ce côté-là, c'est un peu l'épreuve du guerrier, de prouver qu'on est capable d'encaisser autant en fait, de douleur et d'avoir la volonté d'aller au bout, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui entament une grande pièce et qui ne la terminent pas parce que c'est trop douloureux. Et en fait, ils perdent la volonté. Souvent, c'est une question de volonté avant d'être une question d'argent. Donc, quand on veut se faire tatouer des pièces aussi importantes, ben, déjà, il faut beaucoup réfléchir. Il faut être très, 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 très sûr de ce qu'on veut. Parce qu'il va falloir être fort pour arriver au bout très, très solide. Donc, voilà. Si on comptait vous faire une pièce comme ça. d'entrée.
Du coup, vous l'avez fait à l'ancienne ou à
la machine ? Non, ma poteau, il a tout fait tout ça à la machine. Après, j'aimerais bien essayer le Temori aussi, hein, sur, parce que j'ai fait sur le maître, mais je n'ai pas fait sur moi. Mais ce serait une bonne occasion, peut-être, hein, ailleurs, de le faire. Mais commencer à avoir un peu de manque de place. Hein. Mais je compte faire la plupart du corps à la machine, quand même, pour des questions de financières et de temps aussi. Et que de moins en moins de gens le font.
Et du coup, dans quelle mesure vous avez incorporé cette technique dans votre pratique ? Et c'est que vous souhaitez ne faire que la technique japonaise, ou vous, au niveau artistique, vous avez envie d'évoluer et de mêler les deux cultures, en fait ?
Je fais déjà un peu des deux. On va dire que j'ai étudié là-bas pour vraiment essayer de me spécialiser dans le tatouage traditionnel japonais, qui est un petit peu absent en France, on va le dire. Il y en a quelques-uns qui en font sur Paris et à Lyon notamment, mais beaucoup de new school, on va dire. Moi, j'aimerais bien essayer vraiment de me rapprocher de ce qui se faisait à l'époque d'Edo et de faire un tatouage japonais qui est bien avec des traits épais, qui reprend vraiment les codes de l'époque, hein, et c'est pour ça que j'ai une gamme de couleurs qui est très réduite aussi, comme avant, hein, j'ai 5 couleurs ce matin-là. Et après, je m'adapte à la personne et je fais d'autres styles, comme le black work, par exemple, qui est très détaillé, ou le tatouage, l'aurore tattoo aussi, où on reprend des figures de la mythologie occidentale, comme les vampires, les loups-garous, etc. Et c'est tout travaillé au noir, et c'est totalement différent. Après, j'ai derrière moi 10 bonnes années d'illustration à la base, donc on va dire que j'ai pas mal fait d'évolution déjà. Et, mais ça ne se finit jamais.
Et New School, c'est quel style ?
Alors, en tatouage, il y a vraiment beaucoup de styles différents. Il va y avoir le old school américain, par exemple, c'est celui qu'on connaît le mieux, hein, les têtes d'aigle, les panthères noires, les grosses roses, etc. Tout ça, c'est attribué au old school américain. Et ensuite, il y a le new school qui est apparu récemment, où ça se rapproche plus du comics américain ou de la bande dessinée. Et les traits sont très fins, très travaillés, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleurs, en général.
Le japonais, c'est quoi le new school ?
Et le japonais new school va reprendre les codes du tatouage, pour le sens du corps, par exemple, et l'harmonie des formes. Par contre, la technique ne va pas être la même en termes de couleurs et d'application des noirs et gris, etc. Et les personnages vont être travaillés de manière plus moderne. Ils vont vraiment s'éloigner de ce qu'on a dans les estampes pour faire quelque chose qui se rapproche de ce qu'on voit la plupart du temps, on va dire en réalisme, etc. Je serai là sur Japantown jusqu'à 18h30. Donc n'hésitez pas à venir me voir sur mon stand si vous voulez plus de renseignements, voir mes flashs, prendre un rendez-vous, on sait jamais.
Choisir un modèle.
Choisir un modèle. Donc voilà, je vous attendrai plus tard.
Merci beaucoup. Merci.